quand je t'aime, j'ai des fleurs.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission Barbu bouffe-moi le cul. Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière puisque je vais vous mettre en podcast une émission que j'ai faite il n'y a pas très longtemps pour mon projet du baccalauréat. Il s'agit d'une table ronde autour du féministe avec comme invité Patrick Dalle qui est du réseau Canopée, le collectif des droits des femmes avec Francine et Agnès et la présidente du planning familial avec Françoise. Donc je vous laisse tout de suite écouter cette table ronde. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Pulse 90 FM. Aujourd'hui est une émission un petit peu particulière puisque nous allons débattre autour d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui dans l'actualité, la place de la femme dans la société et notamment du féminisme. Alors qu'est-ce que le féminisme ? On va expliquer un petit peu à nos auditeurs, parce que ça sert à rien de faire un débat si on ne sait pas de quoi on parle. Alors, le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Le féministe a donc pour objectif d'abolir dans différents domaines les inégalités hommes-femmes dont les femmes sont les principales victimes et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée. Alors voici le positionnement des Français sur le sujet du féminisme. Alors seul un Français sur deux se revendique féministe, donc 59% pour les femmes contre 49% pour les hommes. Notons également que 33% des femmes ne se disent pas féministes en France. Alors pourquoi ce débat ? Donc pour vous raconter un petit peu ma vie, je suis actuellement en stage à Radio Pulse, je passe mon baccalauréat cette année, et nous devons monter un projet sur notre lieu de stage. J'ai donc choisi un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Donc pour cette table ronde, j'ai l'honneur d'accueillir le collectif des droits des femmes avec Agnès et Francine, et Françoise qui est la présidente du planning familial. Nous avons aussi à nos côtés Patrick Dalle, qui a beaucoup de cordes à son arc, puisqu'il est issu du milieu de la petite enfance en passant par professeur au lycée et actuellement au réseau Canopée. Donc bonjour à tous et bienvenue à Radio Pulse.
Bonjour. Bonjour.
Alors je vais vous laisser la parole avec cette première question. De nos jours, selon vous, quelle est la place des femmes dans la société française ? La parole est à vous.
Vaste sujet. Donc je pense que cette place est très inégalitaire. Oui. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine public. Alors, dans le domaine privé, bon, les femmes ont leur place, on va dire, presque au maximum, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui leur retombent sur leurs responsabilités. Et dans la société, dans le monde public, la place des femmes se cherche encore au niveau des... Même si elles sont amenées petit à petit à prendre des responsabilités dans le monde du travail ou dans le monde politique, les proportions sont faibles. Et au niveau du travail, les salaires sont moindres.
Il y a des différences, ouais.
Il y a des grandes différences de salaire. Donc la place des femmes, elle est encore très inégale au niveau de la vie en société.
Peu reconnue aussi au niveau de la culture, des arts, je trouve, pas une grande place.
On a quand même beaucoup d'artistes françaises qui sont femmes.
Il n'y a pas de chef d'orchestre, il y en a peu, il y en a
voilà,
que 6
par
en
exemple,
France,
voilà.
D'accord.
Ouais.
Qui ont bien du mal à prendre une place réellement.
Et c'est vrai que ça évolue mieux cette dernière décennie peut-être, je dirais. Au niveau des scénaristes, des réalisatrices, au niveau alors, de la musique, comme le dit Françoise, il y a peu de chefs d'orchestre et peu de musiciennes aussi dans les grands orchestres nationaux ou petits orchestres municipaux. Il y a peu de reconnaissance quand même, je trouve, au niveau de la culture, des arts, etc. Ah.
Justement, c'était la question que je me posais. Donc moi, j'interviens effectivement plus dans le domaine de l'éducation. On en reparlera certainement un petit peu plus tard. En tout cas, la place des femmes dans la société, il y a des lois qui se mettent en place, il y a des volontés d'afficher. Il faut que les salaires soient égaux, il faut que les femmes accèdent aux responsabilités. On est beaucoup dans ces discours-là, alors tant mieux, ils existent. Globalement, dans les faits, c'est vrai qu'il y a des inégalités dans cette société française et l'inégalité entre les hommes et les femmes en fait partie, ça c'est sûr. Après, comment se fait-il que toutes les lois ou les discours ne fonctionnent pas ? Peut-être que vous, en tant qu'association, vous avez plus d'éléments là-dessus. Comment expliquer qu'il y a toujours ces différences-là ?
Les lois existent, mais le problème, c'est qu'elles se répètent, elles se répètent, elles se répètent, et elles ne sont pas appliquées, quoi. C'est tout le problème, quoi. Il n'y a pas de...
À chaque effet d'annonce, on remet une loi et ça n'avance pas.
Et les mentalités évoluent peu.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour pouvoir appliquer ces lois ?
Eh bien...
Quel mode d'action on pourrait envisager ?
Là, c'est un combat par rapport à nos chefs d'État. Hein. C'est vraiment comment les atteindre. Déjà, quand on voit qu'avec le travail qui est fait au niveau des collectifs droits des femmes ou du planning familial et que les subventions sont réduites de 25 à 30%, donc ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de salariés sur le terrain et ça veut dire qu'il y aura de moins en moins aussi d'informations, d'accompagnement. Je ne sais pas si je réponds.
Si, c'est plutôt clair pour moi. Après, je parlais plus en tant que citoyen, parce que les associations, on sait très bien qu'elles font beaucoup de choses pour ça, dont d'ailleurs le collectif des droits des femmes. Je parle en tant que citoyen, à part sortir dans la rue, parce qu'on l'a déjà fait et on voit que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Bah, peut-être chacun lutter à son niveau. À chaque fois qu'il y a une différence qui est exprimée, alors soit une différence de sexe, une différence de religion, une différence de milieu social, etc., selon la place qu'on occupe, selon la relation qu'on peut avoir avec les gens. Moi, c'est plutôt, en ce qui me concerne par exemple en tant qu'enseignant, rappeler avec force que non, on ne fait pas une différence sur ces sujets-là, on fait une différence peut-être sur les compétences individuelles, sur ce que quelqu'un est capable de faire, on va l'accompagner au mieux en fonction de ses compétences, mais on ne fera pas de différence selon ses origines, et ni en fonction de son sexe et son genre, voilà. Donc peut-être déjà chacun agir dans son environnement proche, là où on peut avoir un petit peu d'influence, c'est très peu. Après, est-ce qu'on peut agir sur un niveau plus global ? Moi, je ne vois pas comment je peux influencer au-delà de mon...
Dans le milieu du travail, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, parce qu'une femme qui va oser prendre la parole, voir son chef ou son directeur ou pour expliquer par exemple les constats qu'elle fait sur une différence de salaire pour un travail égal, un poste de responsabilité égal, elle va être déconsidérée. Voire plus à la longue, ça veut dire qu'elle est peut-être trop sûre d'elle et qu'elle peut finir par gêner le fonctionnement et que, ma foi, à la bonne occasion qui va se présenter, on va lui faire comprendre que la porte n'est pas loin, quoi. Donc, c'est des exemples que j'ai pu relire encore aujourd'hui sur cette question. Oui. Et c'est vraiment une discrimination au travail qui... Donc ça nécessite de ne pas rester isolé, certainement. Ça nécessite de se regrouper. Ça nécessite que ce soit un combat plus collectif. De toute façon, c'est pour ça qu'au niveau des syndicats, il y a aussi des commissions femmes pour essayer de faire avancer le Schmidblick. Mais c'est un travail de longue haleine, quoi. Pour demander l'application des lois, parce que les lois, elles existent, quoi.
Puis il y a une grande frilosité aussi, je pense, de la part des femmes, de notre part. Il y a une grande frilosité parce que notre identité culturelle, malgré tout, c'est la domination du patriarcat. Alors, on vit ça quand même depuis des décennies, et prendre le dessus, c'est pas évident. Les hommes sont dans tous les postes, effectivement, à responsabilité, enfin beaucoup, hein. Et il nous est difficile à nous, parce qu'on n'a pas été, effectivement, aussi petites, je pense, on n'a pas été sollicitées, on n'a pas été forcément amenées à entrer dans des débats plus larges de l'égalité et de... Et puis voilà, les, à tous les niveaux, dans les jouets, dans les, à l'école, on nous a tout, on a, c'est des clichés, des, on est formaté, on est, et on disait tout à l'heure, la petite enfance, c'est les femmes, le soin, c'est les femmes, les transports routiers, c'est les mecs, voilà. Et ben, on en est malheureusement encore à ces constats, même s'il y a une évolution certaine, ça je ne le nie pas, mais depuis les années 68-70, l'évolution et les avancées sont quand même pas très très visibles et pas très très importantes.
Après, on peut aussi noter que, vous parlez de jouets tout à l'heure, c'est vrai que cette année, on arrive aux fêtes de Noël, on voit dans les
catalogues,
ouais, dans les catalogues de jouets qu'ils ont fait quand même beaucoup d'efforts, on peut pas le nier, avec arrêter de mettre du rose et du bleu pour les hommes, enfin pour les garçons et les filles. Et au niveau des jouets, on voit que sur les publicités à la télé, c'est un peu plus mixte. On voit aussi des petits garçons qui vont jouer à la dinette avec une fille. Donc là-dessus, je pense qu'on a aussi évolué et que faut le noter.
Ça, je ne nie pas.
Il y a un peu de progrès.
On n'a plus les pubs, voilà, pour les cives exclusivement avec la femme et son panier de linge. Maintenant, ça commence à se diversifier un petit peu. Enfin,
Mais un garçon qui joue à la poupée encore au jour d'aujourd'hui, je pense pas que ce soit.
Il y a des parents qui s'y opposent.
Oui, voilà. Malheureusement. Et les parents ont un grand rôle à jouer. Même alors, au sein du couple, déjà, l'égalité homme-femme, déjà à la maison, au niveau des tâches ménagères. Parce que le milieu du travail, on sait, ça, c'est très, très, très injustement rémunéré, les hommes, les femmes. Les responsabilités, c'est pareil, c'est très, très mal réparti. On ne nous laisse pas beaucoup de choix, parce qu'à formation égale, bien souvent, on n'a pas les mêmes postes et on n'a pas les mêmes salaires. Et ça, moi, je trouve ça très, très injuste. Et c'est vrai que les hommes ne sont pas non plus, on ne peut pas dire, à nos côtés. Enfin, pas en majorité, en tout cas. On ne sent pas de leur part la volonté d'arriver, d'accéder à l'accès des femmes au même rang que eux, par exemple. Enfin, dans la vie de tous les jours, dans les discours, même entre copains, même entre amis, etc., etc.
Je vais justement laisser la parole à Patrick Dalle, qui est issu du milieu de la petite enfance et qui est un homme et qui a, vous étiez dans une crèche, c'est ça?
Alors oui, j'ai commencé à travailler dans des établissements de petite enfance et j'en ai dirigé quelques-uns après. J'ai toujours été, que ce soit dans des grandes villes ou des petites villes, le seul en fait agent, donc parfois sur 200 ou un petit peu moins de 200 personnels, exclusivement féminin, et j'ai toujours dirigé, à l'exception d'une structure, des équipes exclusivement féminines. La seule équipe que j'ai dirigée avec un agent homme dans l'équipe, les rapports étaient vraiment très très différents. Alors voilà, on reparlera un petit peu de l'orientation qu'on donne effectivement par défaut. Vous disiez, le soin, la petite enfance, la personne âgée, c'est quand même majoritairement des femmes. Et le système entretient un petit peu ça. Il y a des moyens de lutte, on y reviendra. Mais la réalité, elle est là, effectivement. C'est principalement ou exclusivement des femmes. Voilà, c'est pas simple. Tout comme des milieux exclusivement masculins sont pas simples. Mais c'est une réalité. Alors, pour moi, ça a toujours été un avantage, et je l'ai revécu quand je dirigeais des structures, quand j'avais des demandes de stage pour des futurs éducateurs ou des futurs auxiliaires de puériculture hommes. C'est tellement rare que la curiosité l'emporte et qu'on a très, très envie d'encourager ces parcours-là. Donc, moi, j'ai plutôt vécu comme un avantage et pas... s'il y avait discrimination, elle était positive, pour le coup. Donc, ça, c'était plutôt agréable. Est-ce que ça fait évoluer les pratiques? Moi, j'ai pas l'impression. Depuis 15 ans, il y a toujours aussi peu d'hommes dans la petite enfance. Il y a toujours aussi peu d'hommes dans les filières de service à la personne, alors que, ils apportent, je pense qu'on apporte des visions différentes, des regards différents. L'idée, c'est pas de gagner les uns contre les autres, mais bien d'être complémentaires et d'apporter des visions différentes, que ce soit dans l'éducation ou ailleurs. Ça manque un peu.
Et est-ce que vous êtes apte à me répondre? Est-ce que vous avez remarqué pourquoi, justement, il y avait plus de femmes que d'hommes dans ces milieux-là?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. La plupart, elle est... J'allais pas dire historique, mais on est dans un système où effectivement dans des habitudes. Les métiers de la petite enfance sont des métiers qui sont peu payés. Il y a encore la grande idée de dire bah, t'es une fille, donc tu sais s'occuper des enfants. T'as
c'est
bien
ça.
Gardé ton petit frère quand t'étais petite, donc tu peux devenir auxiliaire de périculture. Bon, il y a quand même une association entre les enfants et les femmes qui, bah parce qu'elles ont eu des enfants elles-mêmes ou parce qu'elles sont en capacité d'en avoir, vont savoir s'en occuper. Donc déjà, il y a tout un travail de qu'est-ce que c'est que s'occuper de jeunes enfants et sur la professionnalisation de ces métiers-là. Le fait que ce soit effectivement des métiers vers lesquels les jeunes garçons ne sont pas orientés par défaut. Un jeune garçon en troisième qui a envie de faire un stage en crèche, c'est très rare, et puis on ne va pas lui proposer, et puis ça viendrait à l'idée de personne de lui proposer. Et si jamais il en a l'idée, peut-être on va lui dire « Ah bon, t'es sûr ? Oh, tu sais, c'est pas très bien payé. Bah, tu sais, s'occuper des enfants, bof. Voilà. » Alors qu'une jeune fille, tu sais pas quoi faire, eh ben, fais coiffeuse ou va t'occuper des jeunes enfants. Donc il y a vraiment encore dans l'esprit de beaucoup des orientations évidentes pour les filles, des orientations évidentes pour les garçons, et puis on a un petit peu du mal à en sortir.
Vous étiez professeur à Maréchal Leclerc, donc c'est un lycée professionnel. Vous parliez de stage tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut, et c'est flagrant, on peut voir que dans les classes, il y a des... Par exemple, pour les ASSP, c'est aide, soins et services à la personne. Il y a majoritairement des filles. Je sais qu'il n'y avait qu'un gars qui était dans la classe pour 30 personnes. Et on voit aussi qu'en commerce, c'est plus les gars qui vont s'orienter vers ces milieux-là. Est-ce que vous pensez qu'au fil du temps, est-ce que vous avez déjà vu une amélioration justement de cette mixité dans les choix ?
Alors malheureusement, j'ai pas l'impression, alors peut-être ça va venir, c'est vraiment un sujet d'actualité, cette égalité filles-garçons, on en parle dès tout petit, dès à l'école maternelle, à l'école primaire, il y a des accompagnements qui sont faits, les enseignants prennent ce sujet à bras-le-corps, dans les familles, ça, je pense, ça bouge plus difficilement, et non, très honnêtement, depuis, enfin moi j'ai fait mes études d'éducateur en 96, ça ne rajeunit pas, il y a toujours autant d'éducatrices de jeunes enfants et aussi peu d'éducateurs de jeunes enfants. À l'hôpital, les infirmières sont bien plus nombreuses que les infirmiers. Ouais. Donc ça se reproduit d'année en année, de décennie en décennie. J'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup.
Et puis ça veut dire que ça se reproduit aussi sur l'éducation qu'on transmet aux petits. Parce que s'ils étaient habitués à voir des éducateurs autant hommes que femmes, bien sûr que ça crée une autre dynamique dans l'esprit des enfants aussi, quoi. De même dans les écoles.
Dès l'école maternelle, d'ailleurs. Oui. Il y a peu d'enseignants en école maternelle.
Oui, c'est vrai.
Mais ça demande vraiment une lutte contre les représentations. Enfin, j'ai un souvenir, j'y pensais en pensant cette émission. La première année où j'ai travaillé, une maman qui visitait la structure se fait guider par la directrice et qui me présente comme un des éducateurs intervenant potentiellement auprès de son enfant. La maman me regarde et me dit « Mais vous avez le droit d'être là ?» Ben, je lui dis « Oui, je crois. Enfin, pourquoi ?» Ben, parce qu'avec tout ce qu'on voit à la télé, etc., je ne pensais pas que les hommes pouvaient travailler les petits enfants. Donc, il y a vraiment un effort à faire dans les deux sens, quoi. Effectivement, tous les hommes qui travaillent auprès de jeunes enfants ou d'enfants ne sont pas pédophiles, heureusement, et sont très capables de s'occuper d'enfants. Et toutes les femmes qui ont envie de s'intéresser à la mécanique auto ou camion peuvent tout à fait devenir des très bonnes mécaniciennes.
Et il y en a.
Et conduire des poids lourds, bien sûr.
Il y en a pas mal, ouais.
Il y a un département qui fait des présentations de métiers comme ça, de manière un peu virtuelle, où on peut suivre quelqu'un dans son métier. Et pour conducteur de poids lourd, ils ont choisi une femme, qui est tout à fait passionnante quand elle présente son métier. Donc voilà, il y a des efforts de fait là-dedans, et je pense qu'il faut les continuer.
Peintre en bâtiment, il y en a de plus en plus, parce que je travaille avec les élèves de lauréat de la Ferté-Massé. Et là, de plus en plus, d'année en année, les filles, même il y a une jeune fille qui voulait peintre en bâtiment, on lui a refusé parce qu'elle avait un niveau scolaire très élevé, lui a-t-on dit. Et elle a dit, ben non, moi je ne veux pas aller dans ce que vous me proposez. Et là, aujourd'hui, elle est en formation. C'est quand même bien ce changement, même si c'est pas...
Mais dans ce que vous dites, il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'on a quelqu'un qui est motivé, qui a une idée assez précise de ce qu'elle veut faire. On va lui dire, ben non. Ton niveau scolaire est trop élevé. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
C'est vrai, hein.
Et voilà, enfin, pour connaître bien le milieu de l'enseignement, on voit effectivement une jeune qui veut se lancer dans un enseignement professionnel parce que c'est ce qu'elle veut faire. Effectivement, au bon niveau, on dit bah non, tu vas perdre ton temps, il faut aller en général, etc. Et on peut casser des vocations comme ça, ou en tout cas rendre les élèves en difficulté dans leurs enseignements.
Oui.
Là, il y a vraiment, alors, à la fois du côté des familles et de certains conseils de classe ou de décisions qui sont prises. Où là, on oriente déjà les jeunes. Et le genre, là, est malheureusement encore trop souvent
impactant. J'ai le souvenir au collège de la conseillère d'orientation qui avait vu, au vu de mon bulletin et de mes notes, j'étais assez bonne en français, en histoire et tout ce qui est langue. elle me venait, mais pourquoi tu vas faire un bac professionnel, ça sert à rien, tu fais L. Et je me rappelle que ça avait, avec mes parents, on s'était fait la remarque que bah, c'était, enfin moi je voulais faire un bac pro. Et de fait de casser les élèves comme ça, parce qu'apparemment on a un trop bon niveau pour aller en bac pro, je trouvais ça assez aberrant.
C'est dommage d'ailleurs, on dévalorise beaucoup, je trouve, moi, les métiers, les lycées professionnels et les formations qui pourraient se faire en apprentissage. Je trouve tous les métiers, voilà, manuels, l'artisanat, les métiers de bouche, etc. Je trouve que c'est vraiment dévalorisé. Alors déjà dévalorisé, certainement par les conditions de travail qui doivent être très difficiles, les salaires qui sont sûrement pas très élevés, et puis effectivement la représentation homme-femme. Oui, toi tu vas pas être assez forte, toi tu vas pas être assez costaud, tu vas pas tenir le coup, etc., etc. Je trouve que c'est des clichés en fait qui nous poursuivent. Et puis dévaloriser ainsi les métiers, l'enseignement professionnel, ça me révolte, parce que vraiment il y a pas de, si on a envie de faire un bac pro, on fait un bac pro. Il y a rien. Oui, cette dévalorisation, moi ça me choque, parce que pourquoi toi tu es bonne en langue, et bah va ailleurs. Non, c'est pas difficile.
En parlant de l'enseignement justement, donc vous nous parliez de dès le plus jeune âge, dire aux enfants que quel est le rôle de la mère et du père, que la femme elle est pas que à la cuisine et pour changer les couches. Il y a certaines familles où ça se passe pas comme ça. Et là c'est à vous Patrick Dalle que je vais aller voir là pour la réponse. Comment dans les lycées, collèges, écoles, on peut faire pour justement montrer à ses enfants, expliquer que il faut arrêter ces inégalités hommes-femmes?
Alors, ce serait long hein, de présenter toutes les possibilités, mais en tout cas, pour préparer l'émission sur le site du réseau Canopée, dans lequel je travaille depuis septembre, lorsqu'on tape égalité filles-garçons, on tombe sur à peu près 200 ressources classées différemment selon qu'on travaille en maternelle, en collège, en lycée. Il y a des formations qui existent, il y a des conférences qui sont proposées, donc on est bien sur un sujet d'actualité. Toutes ces ressources permettent d'accompagner les enseignants qui travaillent donc de la maternelle au lycée, sur des actions qu'on peut mettre en place, sur des projets pédagogiques. Alors chez les tout-petits, c'est simplement réfléchir à l'aménagement de sa salle, par exemple. On disait tout à l'heure pour les jouets, mais je ne vais pas faire un coin fille et un coin garçon, un coin dinette et un coin garage. Je vais avoir des espaces dans lesquels l'ensemble des enfants vont pouvoir jouer, interagir, réfléchir. Et puis moi, dans ma posture d'enseignant, je ne vais bien sûr pas encourager par défaut un petit garçon qui ne va pas savoir quoi faire. À moi de faire attention, on peut lui dire « tiens, tu as un garage, tu peux jouer aux voitures ». Mais peut-être tu as envie de construire, et ben on va construire avec ça. Tiens, tu as envie d'imiter ou je sais pas quoi, ben là tu as les poupées, etc. Donc il y a déjà sa propre attitude d'enseignant. Et puis le réseau Canopée, par exemple, peut aider des professeurs qui voudraient s'emparer de ce sujet-là, de leur proposer tout un tas d'actions un peu clés en main ou de ressources documentaires pour justement aborder ce thème-là.
Alors pour l'instant, on a beaucoup parlé du féminisme et de la place de la femme dans la société. Alors, est-ce que vous trouvez que le mode d'action des femmes avec leurs actions qui sont assez crues et assez osées, on peut le dire, pourrait faire basculer la balance? Et est-ce que ce côté extrémiste est un bon moyen de faire prendre conscience des inégalités? Alors, avant de vous laisser la parole, les femmes, pour expliquer à nos auditeurs, sont un groupe d'origine ukrainienne qui a pris une ampleur mondiale, défendant les droits des femmes avec l'expression de la nudité. En latin, le mot femmes désigne la partie de la hanche allant jusqu'au genou, donc appelée de nos jours la cuisse. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pensez que les femmes ont un bon mode d'action?
Moi, je pense que les modes d'action sont complémentaires.
Oui.
Et que ce que font les femmes, ça aide à faire comprendre aussi d'autres modes d'action qui vont aider à comprendre ce qu'elles font. Pour moi, ce n'est pas contradictoire. Enfin, ça ne peut qu'aider à la prise de conscience de les femmes peuvent exister, elles n'ont pas besoin du regard des hommes pour exister, elles peuvent exister par elles-mêmes, même s'il y a un peu de l'exhibition dans ce qu'elles font, c'est de dire je suis moi-même et je m'affirme. Et moi je ressens ça comme ça, et je trouve que ça peut aider à la prise de conscience.
Oui, c'est ça.
Et vous ne trouvez pas que justement le fait que la femme exhibe son corps comme ça, c'est pas un peu contradictoire avec le fait qu'on demande justement de respecter notre corps?
Non, pour moi, c'est pas une contradiction.
Ouais, c'est pas une contradiction.
C'est affirmer, c'est j'existe, c'est j'existe, je suis là, pourquoi pas, quoi.
à condition peut-être de ne pas mélanger les causes. Je dis ça parce que il y a deux jours, une fémène a été arrêtée à l'Élysée, avec donc ce même mode d'action d'arriver dénudée, mais c'était pour protester contre la venue de Poutine en France. Et du coup, le mouvement fémène qui est à la base pour défendre le droit des femmes, là, on était vraiment sur un sujet complètement différent. Alors, avec un mode d'action qui permet effectivement d'agir sur la provocation, c'est passé dans tous les journaux people du pays, donc ça s'est su. Maintenant, est-ce que ça brouille pas un petit peu les cartes?
Elles
sont politisées.
Elles sont très très politisées.
Leur objectif premier est quand même pour le féminisme. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'égarer dans des débats politiques avec les femmes?
Non, je ne crois pas. C'est un acte politique c'est aussi. Et puis notre corps.
Il faudrait qu'elle soit nue avec des gilets jaunes sur elle, quoi.
Oh, c'est pas agréable, non, c'est le nylon.
C'est un cliché, je trouve. Mais non. Puis la nudité, c'est pas un mal. À ce moment-là, le naturisme, tout. S'il faut tout rapporter, on peut pas tout rapporter non plus.
Est-ce que vous, en tant que femme, ça vous choquerait de voir des hommes qui sont nus dans la rue et qui défendent leurs droits?
Mais il y en a, les publicités, maintenant, il y a autant les publicités pour les parfums, les machins, les trucs.
Les sous-vêtements.
Bien sûr, la publicité, moi je ne suis pas pour, le corps, ce n'est pas une marchandise, on est bien d'accord, hein. On ne doit pas faire du fric avec le corps, ni des hommes, ni des femmes d'ailleurs. Mais une femme ou un homme maintenant, sur les panneaux publicitaires, on en voit autant.
Je vous parle de manifester dans la rue comme font les femmes.
Oui, pourquoi pas, s'ils ont des causes à défendre et qu'elles sont défendables, entendables. Moi, ça ne me dérangerait pas, hein, personnellement.
On le voit parfois sur les stades de foot, mais ce n'est pas très pour défendre des causes.
Et regarde les calendriers maintenant. Les calendriers, tu as des sportifs, des équipes, là les pompiers, tu as...
Ils font des
calendriers, ils posent nus.
On a aussi Clara Morgan qui le fait, mais ça c'est un autre débat.
C'est pas le même public ciblé. Juste sur les femmes, ce qu'on disait un petit peu en aparté avant l'émission, ce qui est intéressant, c'est toutes ces formes, en tout cas d'expression. Mm-hmm. Et ce qu'on disait aussi, c'est qu'on sent une accélération, on parlait du MeToo. Oui. Là, il y a une accélération, alors qui est due aussi à l'utilisation des réseaux sociaux en masse. Donc... je pense que là, on est sur des actions qui font parler. Ça, c'est la première étape. Et puis après, ce qu'il faut, c'est s'en saisir pour voir comment on peut nous les utiliser derrière, comment on peut réfléchir, comment on peut amener... Mais une action comme les femmes, peut-être en soi, est-ce qu'elle est discutable ou pas, je ne sais pas. Par contre, elle peut servir à lancer un sujet et de discussion et de débat autour de l'égalité. Et je pense que ça peut se faire à tout âge. Et alors, je ne sais pas si on arrivera à changer les mentalités des personnes actuellement en poste, à responsabilité, etc., très dans des clichés. Là, il y a un vrai, vrai travail encore à faire avec les élèves, on l'a dit, avec les jeunes, avec les petits, avec les adolescents, qui sont en train aussi de construire leur identité et de se poser des questions sur la place des uns, des autres et leur propre place. Je pense que ça, c'est un public qu'il faut particulièrement soigner.
Donc on parle des modes d'action, est-ce que vous pensez que les... Alors on en avait parlé avec Agnès et Francine la dernière fois, je parlais de Simone Veil et de Louise Weiss qui avaient brûlé des affiches, qui s'étaient enchaînées avec toutes les femmes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on pourrait refaire, parce qu'on le voit plus ça, au final, de s'enchaîner, de brûler des affiches qui sont complètement machistes? Pourrait pas remettre ça?
Là, ce qu'on voit depuis le mouvement MeToo, et pour s'opposer au meurtre, au féminicide, on voit des affiches en ville, des femmes qui collent des affiches en ville contre les féminicides, et ça s'est fait dans beaucoup de villes de France, et ça s'est fait aussi sur Paris, où ils utilisent d'ailleurs des gabarits pas seulement du format A4, mais un format plus grand, et où il y a une lettre par feuille et qui sont collées sur des endroits stratégiques. C'est une autre façon que de brûler, c'est que ça reste affiché, un petit peu, hein. Ça s'est fait un peu sur Alençon aussi, et c'est évident que ça alerte les gens, quoi. Tu vois, c'est... Donc c'est d'autres pratiques.
Au travers de ces pratiques, est-ce que le risque, il n'est pas justement d'opposer les hommes aux femmes? Est-ce que ça ne va pas finir un petit peu en combat? tout ça?
Je pense pas. C'est intéressant la question que tu poses là, parce que c'est vrai qu'on est... L'idée n'est pas d'opposer les hommes aux femmes, mais c'est vrai qu'on est dans un dans une période où le où les il y a tellement de problèmes à régler qu'il faut peut-être que le mouvement des femmes se restructure. C'est une question qui se pose en ce moment, qui commence à émerger, et notamment, nous on fait partie de l'ancienne génération, mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a des jeunes femmes qui prennent les choses en main énormément avec le mouvement Nous Toutes et ça c'est vraiment très très intéressant, et donc je pense qu'il y a une recomposition du mouvement des femmes qui se reforme et qui va poser des priorités. Alors pour autant, c'est pas forcément dans l'idée de s'opposer aux hommes, parce qu'on est aussi consciente que il y a des hommes qui sont rentrés dans la mouvance quoi de cette évolution nécessaire de la société. Donc c'est...
Et puis pour nous, en tant que féministes, on croit énormément à la reconstruction de ces hommes violents. On peut pas dire laissons-les en prison, en sachant que la prison ça répare rien du tout. Bon, ils ont une peine à purger, d'accord. Mais voilà, et il y a quand même des éducateurs de terrain qui sont là justement pour la réparation. Et moi, je trouve que c'est une très très belle avancée. Et ça, faut qu'on en parle aussi de ça. Faut pas qu'on ait honte, nous, en tant que féministes, de parler de ça, quoi.
Et comment on peut faire en sorte que les hommes soient plus concernés par l'égalité hommes-femmes? Et comment on peut éviter justement les généralités? Parce qu'on entend aussi beaucoup de femmes qui sont extrémistes, qui vont dire que les hommes sont tous des cons. Est-ce que ça peut pas justement ça décourager les hommes à soutenir le mouvement féministe?
Elles sont minoritaires, celles-ci, non?
Ouais, pas spécialement, j'en entends beaucoup des femmes qui disent ça.
En tout cas, c'est la question du vivre ensemble qui se pose, hein. c'est ce qu'on disait. Soit on est dans un combat homme contre femme, blanc contre noir, quartier contre quartier, ou alors on se pose la question de comment on peut vivre ensemble. Et à partir du moment où on commence à être dans cet état d'esprit-là, alors je ne réponds pas à ta question, parce que ta question c'est comment on fait, et je n'ai pas de réponse. Mais voilà, on rencontre des lycéens qui ont déjà des idées très très arrêtées sur l'homophobie, sur le racisme, etc. Des idées qui sont ancrées alors qu'ils n'ont pas inventé, hein, qui peuvent venir de leur famille, qui peuvent venir de leur entourage. Il faut lutter contre ça, alors sur des faits concrets, sur des questions, simplement les mettre face à leurs contradictions. Voilà, puis pas se contenter de discours qui peuvent être dits comme ça. Il faut vraiment les relever et les arrêter quand on voit des discours d'opposition, de haine ou de voilà. Il faut les relever, les arrêter.
Et de division.
Hein, oui, c'est ça.
Il ne faut pas de position.
On n'est pas les uns contre les autres. Chacun doit avoir sa place. Et je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde.
Mais c'est vrai que nous, les femmes, il faut qu'on affirme peut-être être plus virulente. Je pense qu'il faut qu'on soit plus ferme dans nos prises de... Dans nos luttes, dans nos combats, il faut qu'on soit plus présente et plus virulente, plus exigeante, je pense.
Mais ça marche dans cette émission, et sur 4 invités, je suis déjà tout seul, donc les femmes prennent leur place.
Dans nos prises de position. Alors, je voudrais vous faire part d'un livre que j'ai découvert pas plus tard que début d'après-midi au magazine de la santé, d'un certain Ivan Jablonka, qui était invité. Et pour son livre qu'il a écrit qui s'appelle « Des hommes justes », et c'est l'interrogation des hommes sur leur masculinité. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il montre à quel point les hommes participent et peuvent participer et dire non à la violence, comment ils sont prêts à prendre leur place dans le congé parental, donc pour s'occuper de leurs petits-enfants. Comment aussi s'ouvrir à des emplois qui sont réservés aux femmes, ce dont on parlait tout à l'heure. Comment ils remettent en cause donc cette masculinité. Comment ils essayent de s'interroger sur la non-domination, comment vivre une égalité partagée au niveau de la parole et au niveau des responsabilités à prendre dans la société. Donc il y a aussi l'idée du respect de l'autre, de la notion du consentement qui est beaucoup abordée dans ce livre, et ils ont aussi une éthique du regard, de la complémentarité entre les femmes et les hommes. Et je pense que c'est vraiment un bouquin qui pourrait faire avancer, c'est bien comme idée de cadeau de Noël pour faire avancer les mentalités des garçons, sans vouloir donner des leçons, puisque c'est écrit par un homme. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un homme qui prend les choses en main et puis qui dit allez les gars, allez-y, essayez de réfléchir aussi à la question, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
C'est intéressant, ça, parce qu'effectivement, c'est, enfin, de mon point de vue, hein, et dans le groupe, dans le collectif, il y a des sensibilités différentes. De mon point de vue, effectivement, nous, les femmes, on ne doit pas prendre la place. Alors, comment dire ça ? C'est pas à nous de prendre leur place. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour ne pas être violents, par exemple, l'égalité, pour la mettre en œuvre au sein de la famille, etc., au travail. Ils sont pas idiots non plus. Enfin, j'imagine qu'ils sont pas idiots non plus. Mais c'est pas à nous, enfin, voilà, de mon point de vue, c'est pas à nous les femmes. Alors là, c'est bien, Agnès, tu dis un homme s'adresse à des hommes par le biais d'un bouquin sur des sujets hyper importants. Je trouve ça super bien. Parce que ce n'est pas à nous, les femmes, de prendre cette position, je veux dire. Comme les hommes devraient arrêter un peu à notre rencontre de nous faire tout le temps la leçon, de nous dire ce qui est bien pour nous, de faire, voilà, notre lieu et place, au boulot, partout, voilà.
Et vous ne pensez pas justement que la crainte principale de la génération de maintenant, c'est la perte de repères, donc par exemple les hommes au bricolage et les femmes à la cuisine, et que ce soit un peu l'abolition des rôles établis ?
Ben, l'abolition, c'est un grand mot.
Oui, oui. C'est un retournement de situation, un revirement. Enfin, je trouve, c'est un retour à la justesse des choses, enfin, à ce qui devrait être. C'est, alors, pas un retour, puisque ça n'a pratiquement jamais existé, encore peut-être, hein, que maman bricole et que papa fait la cuisine. Ça n'a...
Mais il y a de plus en plus d'hommes dans les cuisines.
Ah oui, mon père fait la cuisine.
Ouais. Voilà.
Et des femmes qui sont chefs aussi de cuisine.
Et nous aussi, en tant que femmes, on ne laisse pas forcément la place à nos garçons, à nos maris, dans la cuisine.
Ouais. Non, mais il faut. La responsabilité vient peut-être aussi de vous, du coup.
On est bien d'accord.
Un peu quand même.
Notre rôle souvent de mère n'est pas.
On a un rôle vis-à-vis de nos fils et.
Je pense que l'idée, de toute façon, c'est pas que chacun fasse exactement la même chose. Hein. Les gens sont différents, les hommes et les femmes sont différentes. Dans une famille, il y a un père, une mère, ou deux pères, ou deux mères. Mm-hmm. L'important, c'est que chacun trouve sa place. Qui fait quoi, je sais pas si c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que chacun puisse s'y retrouver et partager, être ensemble.
Est-ce que cette évolution-là dont on parle, elle doit se faire nécessairement dans la lutte ? Est-ce qu'on n'a pas un autre mode d'action qu'on peut mettre en place ?
La lutte, c'est
l'information. On n'est pas non plus tout le temps dans la rue.
Tout dépend si tu parles du milieu familial ou si tu parles de ce qui se passe à l'extérieur, quoi, dans la société.
Ouais. Globalement, je parle. Donc, que ce soit dans le milieu familial et dans la rue. Parce que, faut le dire, on est vraiment dans la lutte, on est dans la provocation pour certaines. Oui. Est-ce que vous pensez pas que justement le fait de d'être plus posé, de discuter comme on est en train de le faire, c'est pas une meilleure solution que plutôt de tout le temps être dans la protestation ? Parce que là, vous venez de le dire justement, que vous aussi vous avez un rôle à jouer là-dedans et que vous aussi, quoi, vous laissez pas la casserole à votre fils. Et pourquoi justement vous la laissez pas ? Est-ce que vous avez peur que les rôles y changent ? Vous avez peur qu'ils prennent votre place ? Je sais pas. Pourquoi ?
Non mais tout bête, hein. Je sais pas. Non, j'ai un exemple comme ça. La casserole brûlée, par exemple, hein, il y a des méthodes. Hein, enfin, pour nous, on les a trouvées. Mais enfin, bon, les garçons utilisent beaucoup de produits, ça mousse, beaucoup d'eau et tout ça. Et tu vois le robinet qui coule. Non, c'est des petits trucs comme ça qui
alors
font.
C'est bien du bon bicarbonate de soude et du vinaigre,
voilà,
ça marche tout seul.
Voilà. Ouais. Mais, alors, voilà. Mais n'empêche.
La question suivante, c'est ce qu'on repasse nos torchons. Alors, en ce qui concerne.
Et les boxers.
Surtout pas.
Non, mais. Peut-être que s'il y avait plus de tables rondes, de forums, ouais. Mais qui pourrait organiser
dans,
ça
dans les boîtes, je pense. Dans les boîtes et dans les syndicats aussi.
Mais c'est peut-être à vous aussi, du collectif des femmes, de justement mettre ça en place, parce que c'est aussi votre rôle.
Bien sûr, oui. Bien sûr, moi on y pense. Mais c'est vrai qu'on est contente, il y a de plus en plus de monde au planning familial, donc on va faire de plus en plus de choses avec des gens de plus en plus jeunes. Bon, nous, on milite hein, depuis les années 75-76. Alors bon, voilà, on perd. Enfin, moi, je parle pour moi. J'ai moins d'énergie qu'avant. Voilà, j'ai aussi peut-être envie de prendre du temps pour moi.
Et on attend la relève. Hein.
Et puis voilà, mais il faut y croire à ça. Mais c'est comme ça, je pense.
Moi, j'aurais envie de te retourner la question, Maëva, parce qu'en fait, tu parles des jeunes et des jeunes et des adultes en devenir. Tu en côtoies au lycée notamment. Est-ce que c'est des sujets où tu sens encore des différences profondes et des positionnements très clairs, hommes ou femmes, où tu sens que ça, c'est quelque chose qui est un peu acquis dans les jeunes générations?
Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai un groupe de copains qui est vraiment très, très ouvert d'esprit. Donc, j'ai pas ce genre de problème-là. Ouais. Voilà. Personnellement, non, j'ai pas vu de discrimination. Même dans la classe, hein. Enfin, après, c'est vrai qu'on est beaucoup de filles. Il y a que trois garçons dans notre classe. Mais les trois garçons nous respectent et il y a aucun... Ok, j'ai jamais entendu des propos machistes ou autres dans mon entourage.
Bravo.
La question était, est-ce qu'il faut forcément des actions violentes? Peut-être pas. Alors c'est vrai qu'on est dans un pays où malheureusement les discussions, souvent chacun reste dans ses positions. On l'entend bien en ce moment au niveau politique. C'est compliqué d'avancer par la discussion. Donc parfois, il faut des actions un peu coup de poing, un peu fortes pour que les choses avancent. Si maintenant, dans des groupes de classe, ça se passe déjà bien, tant mieux, encouragez ça.
Et là, vous parlez justement du gouvernement. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes? Est-ce que le Grenelle, mis en place par le gouvernement apporte-t-il des résultats satisfaisants?
Eh bien, pas vraiment.
C'est justement ça. Pourquoi? Que je voulais dire. Tout dépend qu'est-ce qu'on appelle une action violente, quoi.
Ah oui, bon, la lutte, c'est pas forcément violente.
Non, la lutte n'est pas forcément violente, mais bon, il y a à la fois les décisions, les réactions individuelles qu'on peut avoir et pour faire avancer les choses. Mais il y a aussi des moments forts dans l'année où on essaye de faire avancer les choses. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette action au moment du 25 novembre au niveau de toute la France, mais c'est aussi au niveau international, oui. Cette action par rapport aux violences qui sont faites contre les femmes. Et donc... Je pense que c'est pas forcément le Grenelle, ça suffit pas du tout, surtout que ça reprend des choses qui étaient déjà dans les lois précédemment, et donc là il va falloir surtout des moyens financiers pour mettre en place les avancées qu'ils prétendent. Bon, et ça c'est
pas de toute façon de
poudre du temps.
Bah oui. C'est tout simplement une volonté politique. Hein. Voilà, si on met moins d'argent dans l'armement, peut-être qu'on en mettra plus dans l'éducation, dans l'éducation nationale, et le soin et tout ça, quoi. Le curseur, il n'est pas forcément, à mes yeux, au bon endroit.
Ouais. Après, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Je sais que dans l'Orne, il y a plusieurs structures qui ont ouvertes pour l'accueil des femmes battues. Je ne sais pas si vous étiez au courant.
Mais il y en a aussi qui ont fermé.
Ouais.
Ou il y en a qui ont ouvert.
Il y a deux ans, la Clarté a fermé sur Alençon, alors que c'était il y a 3 ans, bon, mettons.
C'était il y a 5 ans, je
déjà
crois.
Déjà 5 ans.
7 ans.
Ah, non, oui, non. C'est ça. Si, si, si.
Si, si, la Clarté, il y a longtemps, oui. Si. Mais de toute façon, c'est pas forcément ce que l'on demande. Enfin, il faut des lieux, bien sûr. Mais les femmes, elles n'ont pas normalement, les femmes battues, les femmes maltraitées, elles ne devraient pas devoir quitter leur logement, leur appartement, etc. Alors des lieux d'accueil. Alors il faut des lieux d'accueil pour les hommes violents, il faut des lieux d'accueil pour les femmes battues, et puis quoi, c'est pas ça qu'il faut. Il faut des moyens, le bracelet, on l'a demandé, on a dit, comme en Espagne, le bracelet qui empêche les hommes de s'approcher.
Ça va se faire.
Et le téléphone. Voilà, ça va se faire. Et le
téléphone. Pour les hommes violents?
Oui. Voilà.
Mais
les lieux, ça suffit aussi un peu de... Bon, les femmes sont victimes. Hein, les femmes battues, maltraitées, c'est vrai que ce sont des victimes. Mais il faut arrêter aussi un peu de les considérer comme des... Enfin, pas comme des irresponsables. Mais pourquoi les enlever de chez elles? Pourquoi les... Il faut... il faut les laisser aussi réagir et agir pour elles, enfin, les laisser, même si ce qu'elles vivent bien souvent, c'est très très dur, bien sûr, hein, et que ça leur énergie en est mangée, bouffée, plus. Mais
la confiance en elles.
Voilà, et il faut les laisser aussi, si on les déresponsabilise, je veux dire, c'est vrai aussi qu'elles n'arriveront pas à faire passer le fait de plus laisser battre, le fait de prendre en main sa vie, en fait. Voilà.
Mais pour cette démarche-là, elles ont besoin d'être accompagnées.
Ouais. Ça, c'est... Oui, est-ce que vous les accompagnez, vous ?
Elles ont besoin d'être accompagnées. Oui, bien sûr. Oui. Notamment au niveau du planning. Oui, complètement.
Non, mais il y a quand même... Utiliser, quoi,
mais non, mais l'accompagnement, c'est pas... L'accompagnement, ça passe par redonner confiance, par faire en sorte que... Mais il y a aussi une nécessité de protection, parce que... L'homme violent, il a plus d'une arme.
Bah oui, le pervers narcissique.
Est-ce que vous travaillez avec le CDIFF, donc c'est le Centre d'information des droits des femmes, et la CJM?
Oui, la CJM, oui, énormément. Le CIDFF, c'est Flair, donc c'est déjà un peu plus éloigné. Eux, ils font secteur Argentan, la Ferté-Massé. Et puis nous, on travaille étroitement avec la CJM et Coalia.
C'est quoi, CJM ?
L'accueil de jour.
D'accord.
Voilà. Et Coalia, hein, qui est près d'ici, la rue du collège, qui accueille aussi. Et puis le 115, c'est Lucille, elle est toujours là.
Non, je sais pas. Elle est derrière le...
Voilà, donc non, il y a quand même...
structures qui existent.
Ouais.
Après, on parlait de politique, hein, c'est vrai que c'est notre devoir du citoyen, il est aussi de regarder ça. Si l'égalité homme-femme est quelque chose d'important pour nous, il y a des courants politiques qui le défendent bien, des courants politiques qui encouragent qui valorisent des associations, qui donnent des moyens à ces associations. On parlait du planning familial, par exemple. Et vous avez des partis politiques qui prônent leur suppression. Donc les citoyens ont un vrai choix à faire. Il faut bien lire toutes les lignes.
Ça, on le répète.
Merci.
Que demain, tout peut s'arrêter. Bah, oui. Au niveau de la contraception, de l'IVG. De l'IVG et tout ça. Et ça, on les bombarde. On leur dit... Parce que c'est des futurs électeurs. Hein, donc on a intérêt quand même de les informer de ce qui peut se passer. Hein, parce qu'il y a des centres d'IVG qui ferment.
Alors, ce sont des droits qui sont acquis assez difficilement, et pas très longtemps. Oui.
C'est ça, voilà. Mais ils ferment pas, on n'arrête pas l'IVG en France.
Bien sûr.
On ferme des structures.
Ah, oui, où c'est possible. Ouais.
Voilà, c'est ça la différence.
Ouais. On n'arrête pas l'IVG, mais il y a des risques quand même.
Oui.
Au niveau des orientations politiques, certains...
Sans citer de nom.
Sans voilà. citer de nom, on sait que demain...
Et puis le retour au foyer, hein, le retour de la femme au foyer à élever les enfants. Et puis voilà, ainsi il y aura plus de place dans les entreprises pour les hommes.
C'est très grave.
Voilà, pour les hommes qui peuvent eux travailler.
Donc il faut être vigilant, il ne faut pas voter n'importe quoi.
On avait compris le message. Je vais vous remercier pour cette table ronde. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose avant de clore ce débat ?
Eh bien oui, peut-être faire juste un petit peu de pub sur Canopée. Vous avez un site internet qui s'appelle Outils Égalité Filles Garçons, qui est à destination d'abord des enseignants, mais il y a aussi des actions envers les familles, enfin pour aider les familles. Donc là-dessus, vous y trouvez des BD à lire avec vos ados, vous y trouvez des films d'animation, vous avez des pistes d'accompagnement pédagogique. Donc voilà, Outils Égalité Filles Garçons par Canopée.
Merci beaucoup.
Eh bien, dire aussi que dans le climat où nous sommes actuellement avec la grève sur les retraites, que ce qui est quand même envisagé pour les femmes dans les perspectives de la retraite à point, il y a un revers de la médaille qui peut être assez grave pour les retraites et les femmes. Voilà, ça.
On est toujours les premières.
Ouais.
C'est encore un autre débat.
Oui,
mais si tu veux, ça va dans le sens des... Enfin, ça va malheureusement dans le sens des droits.
Après, je pense que les hommes sont aussi au niveau de la retraite.
Ah bah là,
ils sont aussi
Oui, mais ça sera empiré quoi.
Enfin, quand on parle de chômage, par exemple, il y a quand même beaucoup plus de femmes au chômage ou
dans le mi-temps, le mi-temps imposé,
qu'on trouve pas vraiment chez les. Bien sûr, il y en a, hein, mais moins chez les hommes.
Et donc, c'était Patrick Dalle, Francine, et donc du collectif du droit des femmes avec Agnès et Françoise du planning familial. Merci à vous donc pour cette table ronde.
Merci.
Merci beaucoup.
Et on se retrouve très vite sur Radio Pulse 90 FM.